Bonjour à tous, content de vous voir ce matin. Je vous invite à prier et à placer ce moment de partage de l'Écriture sous le regard de notre Dieu. Père éternel, ce matin, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ta bonté, pour tes miséricordes, tes grâces et tout ce que tu nous accordes, Seigneur, chaque jour, plusieurs fois par jour. Et là, ce matin, tout particulièrement, je prie, Seigneur, de nous guider, nous nous plaçant sous ton regard, sous ta direction et la direction de ton esprit, à la lumière de ta parole, pour que ta parole, Seigneur, elle fasse écho dans nos cœurs conformément à ta volonté, à ce que toi, tu as prévu, préparé pour chacun de nous. Bien évidemment, il ne s'agit pas du messager, il s'agit du message, mais un message qui est fondé, Seigneur, dans ta parole. Et c'est là où on demande ton aide, Père éternel, ce matin, pour que ta parole soit une parole d'édification à nos vies. En Jésus-Christ, amen. Avant de commencer, bon, je commence déjà, hein, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a été, ou quelle est la vision de l'Église qui fut définie par nous dans un week-end d'Église il y a 2 ans? Est-ce que vous vous rappelez, je ne dis pas forcément par cœur, de mémoire, mais plus ou moins... Vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, on avait fait un travail pour définir cette vision de l'Église. Et je vais vous la lire. Et donc, la mission qui fut définie et validée par nous tous, c'est la suivante. Pour la gloire de Dieu et par son Esprit, avec son Église, nous voulons. Parce qu'il s'agit de la mission pour la vision que nous avons définie, nous, ici, dans cette communauté. Donc, nous voulons vivre l'Évangile au quotidien et le partager à notre prochain pour construire ensemble une famille qui rayonne l'amour, de la justice et de la joie de Christ. Et depuis quelques mois, cette vision revient régulièrement dans ma tête, dans mon esprit. Et notamment la question de l'Évangile est au milieu, au cœur de cette vision. Un Évangile à vivre au quotidien, mais aussi à partager, à vivre dans un registre de témoignage, de croissance, de développement personnel de notre relation avec Dieu. Donc au quotidien, dans tous les aspects, même, on pourrait dire, banals, domestiques de la vie courante, pas seulement le dimanche, en cas d'un culte, ou dans nos activités communautaires, sinon vraiment au quotidien. Mais en même temps, le partager à notre prochain. Et là, je suis en train de vous partager... les motivations qui m'ont amené à prêcher ce matin ce message, qui comme toujours n'a pas de titre. Mais si je devais poser un titre, il s'agit tout simplement l'Évangile, l'évangélisation. Ça pour vous donner un petit peu le registre dans lequel je me place pour questionner qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce que l'évangélisation? Vous pourriez, à juste titre, me dire « Mais Pedro, l'Évangile, nous savons tous qu'est-ce que l'Évangile. Et l'évangélisation, nous savons aussi tous qu'est-ce que l'évangélisation. Depuis tout petit, ou depuis en tout cas que je me suis converti à Christ, ou que je suis dans l'Église, cette Église ou une autre, je sais qu'est-ce qu'évangéliser. Nous, ici, dans cette église, nous avons fait même des campagnes d'évangélisation. Mais il est vrai aussi, mes frères, mes sœurs, que parfois il y a des idées qui vont s'installer en nous, qui ne relèvent pas forcément de l'enseignement biblique, qui ne sont pas forcément fondées sur la Bible, mais en revanche, elles sont fondées un petit peu juste sur la tradition, les coutumes, ou des choses qui s'installent en nous, au niveau de nos systèmes de pensée, nos systèmes de croyances, et qu'au fil du temps, sont tellement là, installés, qu'ils vont s'ancrer, et ils vont devenir parfois des véritables vérités. Et on ne va plus les questionner, parce qu'elles sont juste là. Et on va vivre avec ces vérités qui ne sont pas forcément toujours fondées sur la Bible, mais qui nous éloignent en quelque sorte de ce à quoi Dieu nous appelle concrètement. Et pour vous donner 2-3 minutes à vous la parole, j'aimerais vous entendre sur la question que je veux vous poser. En revanche, je vous prie juste d'essayer de répondre précisément à la question, de ne pas donner un témoignage ou un exemple d'évangélisation, mais j'aimerais vous poser la question à vous. Donc j'ouvre cet espace d'échange avec vous. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que évangéliser? Et je vous cède la parole, mais ne donnez pas un exemple. Essayez de, si vous pouvez, faire l'effort d'être succincte et juste dire qu'est-ce que pour vous l'évangile ou évangéliser?
Qu'est-ce qu'évangéliser? J'ai l'impression que ce n'est pas toujours si évident que ça. Normalement, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'évangéliques, en tant que protestants, on devrait être plus ou moins, j'irais, au taquet. Mais qu'est-ce que l'évangile? Le salut en Jésus?
La perdition de?
Dans le péché. Donc ça, c'est l'évangile? D'accord. Faire connaître Jésus, le Père. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'évangéliser? Partager la bonne nouvelle de la réconciliation que Dieu nous propose. Non, évangéliser, c'est, on est dans le registre des, on va dire, partager, je vais juste condenser, partager l'évangile. Donc la bonne nouvelle de la réconciliation de Dieu. Sur le long terme.
Annoncer par nos paroles et par nos actes.
Annoncer, partager par la parole, par nos actes, le message de réconciliation de Dieu.
Le vivre
le mieux qu'on peut. Ouais. Parce qu'on est des hommes. Donc le vivre le mieux qu'on peut. Comment ? Aimer son prochain. Donc, concrètement, quand on sort, parce que voilà, c'est là où je veux vous dire pourquoi il me semble important de questionner cette notion d'évangélisation, donc de partager l'évangile, les bonnes nouvelles. Donc, la question qui s'en pose, quelles bonnes nouvelles ? Parce qu'on parle de partager les bonnes nouvelles. Alors, Christelle a précisé réconciliation. Donc là, il y a un contenu. Cette bonne nouvelle s'agirait de là, le message de réconciliation. Martine a dit, et là, j'essaie de vous amener sur le registre du contenu du message. Martine a dit connaître Jésus, connaître le Père. Qu'est-ce que vous direz en plus?
Faire des disciples, ça me fait penser à un texte biblique très connu, faire des disciples. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dans le mandat missionnaire, le grand mandat missionnaire de la Bible, qui se trouve en dans les quatre... Mais traditionnellement, on va penser à Matthieu 28, qui nous dit, donc c'est Jésus qui parle à ses disciples, mais bien évidemment à nous aujourd'hui, et qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc dans ce grand mandat missionnaire, il est question centrale d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Et de façon subsidiaire, parce que ça va se décliner, les baptiser et les enseigner. Juste les enseigner des connaissances? Non. Figurez-vous qu'il dit « enseignez-leur à observer ». Ce n'est pas juste un enseignement purement théorique, un enseignement de catéchèse, des choses à apprendre par cœur. C'est vraiment un partage de vie, de vivre ensemble. Et je me réfère à nouveau à notre vision d'Église, à un vivre ensemble dans une communauté qui s'entraide, qui s'encourage, qui s'enrichit mutuellement, parce que nous tous, en tant que croyants en Christ, nous savons la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et parmi les piliers fondamentaux de l'Église, de la vie chrétienne, bien évidemment, il y a l'Écriture, la parole de Dieu, la lumière, le message de Dieu, la pensée de Dieu. Deuxièmement, alors, il n'y a pas une question de hiérarchie. Ça ne veut pas dire que deuxièmement, parce que c'est ce que je le cite, c'est moins important que premièrement. Mais deuxièmement, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui est le lien de l'unité de l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui est donné à l'Église, le corps des croyants en Jésus-Christ. Donc il s'agit d'une Église. Aujourd'hui sur Terre, il n'y a qu'une Église, c'est l'Église de Christ. Et troisièmement, l'Église elle-même, la communauté, l'Ecclésia. Et c'est dans l'Ecclésia, dans la communauté, dans ce partage, ce vivre ensemble entre croyants, qu'on va aussi s'encourager. Et donc, cette dimension-là, elle joue bien évidemment un rôle essentiel. Ça pour dresser un tableau plus général sur cette question-là. Mais je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc, évangéliser, c'est annoncer, c'est partager l'Évangile. Maintenant, dans le registre du contenu, qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce qu'on va partager? On a dit réconciliation, connaître Dieu. Je vous repose à nouveau la question. Cette bonne nouvelle, il s'agit de quoi? C'est la bonne nouvelle de quoi? Mais si on devait, parce qu'on est chrétien et donc on a dit qu'un premier pilier fondamental de notre vie chrétienne, c'est l'Écriture. Donc, si on devait se référer uniquement à l'Écriture, qu'est-ce que l'Écriture nous dit par rapport à cette question-là? de qu'est-ce que l'évangile et qu'est-ce qu'évangéliser. Donc, évangéliser, c'est partager la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que la bonne nouvelle? D'après les Écritures. Il nous pardonne de quoi? J'essaye d'aller sur une... Mettre en pratique la parole de Dieu. Mais dans quel but, pour reformuler la question, dans quel but l'Église, nous, le corps des croyants, nous sommes amenés, mandatés à évangéliser? C'est quoi le but? Sauver, je reprends le mot réconciliation, sauver, réconcilier, rendre gloire à Dieu, acquérir la vie éternelle, sauver de quoi? J'irai même encore plus loin, de quelle vie éternelle on parle? Laquelle? Donc, la vie éternelle avec Dieu. Avec Dieu. Paradis, j'ai entendu le mot paradis. Qu'est-ce que pour toi, Noam, si tu veux nous partager le paradis? Quand tu penses au paradis, tu penses à quoi? À la vie éternelle. Je bouscule un peu, mais dans un but pédagogique. Mais je suis dans l'esprit de nos frères de Béret. Vous les connaissez? Les frères de Béret? Qui vérifiaient, qui examinaient toujours à la lumière de quoi? De la parole, de l'écriture. Est-ce que les disciples, à l'époque, dans le texte des Actes 17, c'est là où on parle des frères des Bérés. Il est question de Paul et Silas, si je me rappelle bien. Et les frères des Bérés, ils s'examinaient tout à la lumière des Écritures. D'ailleurs, Paul, après dans ses lettres, il va nous mettre en garde de quoi? De faire attention à les fondements du monde, de la pensée du monde, qui vont s'infiltrer dans l'Église, dans nos systèmes de pensée, dans nos croyances. Il nous met en alerte pour nous dire, vous faites attention de ne pas être trompé. Et ce n'est pas pour rien que dans Romains 12, verset 2, un texte que je cite régulièrement, mais qui me semble au cœur de cette problématique, nous dit, dans Paul, en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dans le sens de système des pensées. » Ce n'est pas le QI. « Afin que vous discerniez, donc pour nous aider à discernir, quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. » S'il n'avait pas eu besoin de nous mettre en alerte, donc Paul ne l'aurait pas fait. Et là, on est tout au début de l'histoire de l'Église. Entre autres, parce qu'il y a une double problématique. Celle de la pensée de l'homme, du système des pensées humains, celles qui sont fondées non sur Christ, qui peuvent subtilement s'infiltrer dans nos systèmes de pensée. Mais il y a aussi la question que nous, quand on vient à Christ, on vient avec quoi? Déjà, on vient avec nos propres systèmes de pensée. Et à travers un cheminement personnel, de discipulat, de formation, de connaissance par les Écritures de la pensée de Dieu, Il y a cette transformation qui a lieu en nous. D'un côté, on est saint et justifié. Pour la question du salut, en Christ. Et Dieu, il nous traite comme tel. Mais en même temps, Paul, Pierre et d'autres nous appellent, nous encouragent à vivre une vie de sanctification. Et Paul, à plusieurs reprises, et Pierre aussi, nous mettre en alerte. Des faux prophètes, des faux enseignements, qui parfois sont très subtils. Et donc, je reviens sur la question de l'évangile et l'évangélisation. Pourquoi ? Parce qu'elle est au cœur de notre vision d'Église, de vivre l'évangile et le partager. Premièrement, et deuxièmement, parce qu'elle est au cœur de la mission de l'Église. C'est le mandat, le grand mandat missionnaire de Matthieu 27, mais qui se trouve aussi dans d'autres textes bibliques. Je pense aussi à toutes ces échanges que j'ai pu avoir, pas seulement dans notre communauté, dans notre église, mais aussi dans tous les échanges que je peux avoir avec d'autres églises. Mais c'est un constat que je pense que vous seriez assez d'accord de la difficulté que nous trouvons en tant que croyants sur cette question-là qui revient régulièrement. Comment évangéliser mon voisin ou mon collègue de travail ? Comment lui témoigner de Christ ? Donc vous voyez, il n'est pas question de savoir si on le fait ou on ne le fait pas. On a envie, on a ce souhait de le faire. En plus, le Seigneur nous envoie à le faire. Mais comment ? Mais le comment inclut le contenu. Ce qui est communiqué. Le contenu de ce message. Donc évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle ? Et c'est là où je vous interpelle, et je vous invite à questionner ce que vous pensez, ce que vous savez à la lumière des Écritures, de qu'est-ce que c'est le contenu de cette bonne nouvelle. Et qui, je m'avance un peu, a ou aurait le rôle de conversion, pour utiliser un mot très évangélique, le mot de le rôle de la conversion des personnes à qui nous sommes amenés à témoigner par notre vie, par nos paroles, le message de la réconciliation, de l'amour de Dieu et avec Dieu. Pour ça, je vous invite à regarder quelques textes dans les évangiles, qui vont répondre à cette question-là. Pas moi, c'est les textes. Je n'ai pas non plus la prétention d'aborder pleinement et complètement, de façon exhaustive, ce sujet-là aujourd'hui. Mais en tout cas, venons s'inviter tous, moi le premier, à y réfléchir, d'aller encore creuser cette question-là, pour mieux se l'approprier. Une des grandes difficultés auxquelles les croyants aujourd'hui, nous, sont concernés, bien évidemment, sont confrontés, c'est le sentiment de ne pas savoir bien faire. Parfois même le sentiment de culpabilité parce que j'ai rencontré ma voisine ou mon collègue et j'ai eu l'impression qu'il m'a tendu une perche, mais je ne sais pas quoi lui dire. Je lui ai dit quelque chose, mais après coup, je suis resté avec le sentiment de que je n'avais pas bien fait. Et donc, à partir de là, de ce constat, on dirait si ce n'est pas votre cas, mais à partir de ce constat, j'aimerais vous poser une autre question. Aujourd'hui, j'ai plutôt des questions à vous poser que des réponses, mais on ira dans quelques minutes rapidement sur ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Toujours dans ce registre-là, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que serait pour vous une action d'évangélisation réussie? Toucher son prochain par la bonne nouvelle. Une conversion? Non, ça veut dire que s'il n'y a pas de conversion, l'évangélisation, c'est un échec? Semer quelque chose. Bien évidemment, quand on sème, c'est dans son but qu'il y ait après une récolte. Mais ce n'est pas forcément nous, dit Emmanuel, qui la verrons. Parce que la récolte, pour revenir à un mot qui a été dit, c'est si, la récolte, cette graine qui va germer. Merci pour cette aide. Qui va germer, ça serait là, je le dis comme ça entre guillemets, pour utiliser un mot qui a été dit, la conversion ou le salut. Qu'est-ce qu'une évangélisation réussie? Parce que évangéliser, c'est au cœur de notre mission. Que ce soit par des paroles ou même par notre témoignage. Ça nous concerne tous. Noam? Une évangélisation dont la personne à qui on parle nous croit. Nous croit quoi? Donc je te pose la question pour essayer de t'inviter à essayer d'aller sur le contenu. Croire quoi? Oui? Pardon, oui, mais je laisse la réponse à Noam. Et donc, merci. Maintenant, c'est la question de... C'est quoi cette bonne nouvelle? Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Hein, c'est quelque chose qui nous semble être de toute évidence, mais c'est pas toujours le cas. Mais là, vous savez, je me suis dit... Il faut que j'aille revoir Matthieu 27. Et je ne sais pas si tout à l'heure en le lisant, je vous invite à le revoir si vous voulez, Matthieu 28, pardon, à la fin, verset 19, verset 20, me dire à quel moment dans ce texte-là le mot évangélisation apparaît. C'est interpellant. Et le grand mandat missionnaire, Jésus, avant de quitter ses disciples, il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Et après, voilà, en les baptisant, et aussi en leur enseignant à observer. Et donc, je me suis dit, alors ma source d'inspiration, ma source biblique, bien évidemment, l'inspiration, ça va être Jésus. Comment lui, il a fait? Comment lui, il a fait? Comment est-ce qu'il a évangélisé?
En étant avec les gens. Il a vécu au milieu d'eux. Il a partagé sa parole. Il a fait des miracles. Il a vécu au milieu
d'eux. Oui. Et petite question à nouveau. Comment est-ce qu'il a évangélisé ses propres disciples? Oh, comment est-ce que ses disciples, Pierre, Jean et tous les autres, se sont convertis? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Suis-moi. Suivez-moi. Mais là, pour... et c'est avec ça que je vais terminer. Je vous invite à un texte qui est très connu, qui est en Luc. Luc 4, et donc qui est le texte biblique qui fait allusion au texte d'Ésaïe, qui est le texte biblique qui précède le commencement du ministère de Christ. Et donc Luc, chapitre 4, au verset 14, le texte nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour de Sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Quoi ? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais laquelle ? Bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Ça fait allusion clairement au jubilé. Une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, il s'assit. Tout ce qui s'est trouvé dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. Alors, ça ne termine pas là. Hein. Il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est moi, Jésus, le Christ, la bonne nouvelle. Et je termine avec Matthieu, chapitre 4, verset 17. C'est justement la première prédication de Jésus. C'est quand il commence son ministère, après la tentation dans le désert. C'est intéressant comment il débute sa prédication. De ce moment, donc ça c'est juste après la tentation de Jésus dans le désert. De ce moment, Jésus commença à prêcher, commence son ministère, et à dire, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche ou s'est approché. Je passe au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Et qu'est-ce qu'il prêchait ? Prêchant la bonne nouvelle. Et on s'arrête là ? C'est la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie, voilà, tous les miracles, les signes qui accompagnaient son dévoilement du Messie, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et chez Matthieu, chez Marc et chez Luc, on va trouver à plusieurs reprises, une cinquantaine de fois, la bonne nouvelle du royaume des dieux, la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle du royaume tout court, ou le royaume de Dieu, ou le royaume de mon Père, ou mon royaume. Voilà tous les registres autour sur la question du royaume. La bonne nouvelle du royaume des dieux. Question que j'aborderai dans une prochaine prédication, parce que là, évidemment, on n'a plus le temps. Mais je voulais vous inviter, et vous inviter, oui, à avoir un regard aussi plus personnel, à creuser un petit peu plus cette question-là de qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce qu'évangéliser, et quelle est cette bonne nouvelle, d'une part, et quel est le rôle à nous individuellement dans l'annoncement de cette bonne nouvelle, dans la prédication de cette bonne nouvelle, et notamment la question de la conversion. Je vous invite à aller lire, enquêter. Comment est-ce que Jésus a prêché auprès de ses disciples, ou comment ses disciples se sont convertis, pour nous inviter nous-mêmes à regarder de plus près, surtout et avant tout, la façon de Christ de faire. Et donc, sujet que j'aborderai dans une autre prédication, et donc je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Père éternel, à toi la gloire, en Jésus-Christ, et merci Seigneur pour ta parole. Je te prie de nous encourager, Seigneur, à aller la étudier, à aller la méditer, aller dans les profondeurs de ta parole pour qu'elle soit véritablement une lampe à nos pieds. Cette lumière, Seigneur, qui va nous éclairer et qui va venir forger les fondements de notre foi basés sur les Écritures pour que nous puissions mieux te connaître et te connaître davantage et te servir aussi à titre individuel mais aussi en tant qu'Église sur cette question qui est fondamentale et essentielle qui est ce mandat missionnaire d'aller et faire des disciples de toutes les nations. Et participer, Seigneur, à ce ministère tel que Paul le dit, qui est le ministère de la réconciliation, pour que chaque être humain puisse entendre parler que tu existes, que tu es vrai, que tu n'es pas un Dieu lointain, que tu t'intéresses au quotidien de chacun de nous, de chaque être humain, et que tu as fait le nécessaire pour que chaque personne, chaque être humain, puisse se réconcilier avec toi. Ô Père éternel, à toi la gloire, en Jésus-Christ.
Les annonces pour cette semaine, donc t'inviter encore à prendre du temps aussi dans la prière. Hein. N'hésitez pas, les petits groupes de prière à vous réunir. Dans les autres nouvelles, mercredi 20h, étude biblique, vous serez sur Hébreux chapitre 7. Samedi prochain à 10h, le groupe de dames, le temps spirituel. Dimanche prochain à 10h15, le culte, et ce sera suivi du groupe de Gaveau. D'accord, on ne sait pas encore chez qui. Ok, et puis bah, du coup, dans la continuité de ce qui a été partagé sur évangéliser et partager, j'avais prévu tout à l'heure de faire un petit temps où on pouvait se rassembler, mais je vais vous inviter à le faire plutôt dans vos maisons et réfléchir peut-être en famille ou individuellement si vous êtes seul. Et j'avais cette question en fait pour vous. Comment puis-je manifester de la bonté dans ma famille ? Et une réflexion à avoir avec nous en tant que parents, avec nos enfants, et puis nous en tant qu'enfants, entre frères et sœurs. Ça peut être une discussion pour ceux qui ont des enfants et des ados. Et voilà, donc je rappelle moment familial ce soir, les enfants. Donc première étape, dans ma famille. Deuxièmement, dans mon église locale. Comment puis-je manifester de la bonté dans mon église locale ? Quelles sont les actions concrètes que je peux mener ? Et puis une troisième question qui rejoint en fait à la question de... nous pose aujourd'hui Pedro, c'est dans mes lieux de vie, que ce soit au travail, à l'école, sur mes lieux de loisirs, comment je peux partager aussi la parole et comment je peux être bon et briller aussi autour de moi. Voilà. Donc, pour terminer, je vous lirai juste ce dernier verset. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Amen. Passez un bon dimanche.